commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications Earth and Environment qui a calculé la probabilité de vivre sur une planète habitable.
Et la Terre est propice à la vie depuis 3 à 4 milliards d'années. C'est une période de temps extraordinairement longue, suffisamment longue pour que des formes de vie unicellulaires évoluent en être humain. Mais quelle est la part de chance dans tout ça? Pour répondre à cette question, un chercheur britannique a utilisé un supercalculateur et a simulé l'évolution du climat de 100 000 planètes différentes. Chacune de ces planètes a été simulée 100 fois avec des événements aléatoires différents qui modifient le climat. Un impact d'astéroïdes, une période de volcanisme, etc. Les résultats de cette simulation sont très clairs. Seulement 9% de ces planètes ont réussi au moins une fois à être habitables. Mais seulement dans quelques cas de figure, il s'agit de probabilité et non pas de certitude, et dans l'ensemble, elles ne restaient qu'occasionnellement habitables. Le chercheur rappelle que la Terre est statistiquement exceptionnelle et que son habitabilité est précaire. Par exemple, si l'astéroïde qui l'a frappé il y a 66 millions d'années avait été légèrement plus gros, ou s'il était tombé à un autre moment, notre planète aurait peut-être complètement perdu son climat hospitalier. Cette étude montre que le hasard est l'un des facteurs majeurs de l'habitabilité d'une planète.
En bref, selon un rapport de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, l'espérance de vie en bonne santé en France a augmenté.
Oui, pour les hommes et pour les femmes. À partir d'une enquête auprès de 14 000 ménages en France, la DRES a mesuré l'espérance de vie sans incapacité. C'est un indicateur de santé publique qui signifie le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans souffrir dans les gestes de sa vie quotidienne. En 2019, une femme âgée de 65 ans peut espérer vivre en moyenne 11 ans et demi sans incapacité et 18 ans et demi sans incapacité sévère. Pour les hommes du même âge, c'est 10 ans et demi en bonne santé et 15 ans et demi sans incapacité sévère. En Europe, c'est l'une des meilleures moyennes.
En bref, toujours selon une étude parue dans la revue Zoological Journal of the Linnean Society, les fossiles d'un Tecodontosaurus antiquus ont permis la reconstitution de son cerveau.
Et ce dinosaure vieux de 205 millions d'années fait la taille d'un loup et appartient pourtant à la famille des Diplodocus. Une équipe internationale a analysé des fossiles par scanner et a réussi à reconstituer sa boîte crânienne en 3D, mais aussi à reconstituer les empreintes laissées par son cerveau. La grande taille des lobes floculaires, qui tiennent un rôle important dans l'équilibre et dans la marche, ces lobes floculaires ont permis aux chercheurs de découvrir la bipédie de cette espèce, alors qu'on l'a pensé jusqu'à présent quadrupède. Les chercheurs ont même pu reconstruire l'anatomie des oreilles internes et même reconstituer son régime alimentaire.
Dans le journal des sciences, cette semaine, il a été question d'un nouveau traitement antiviral, d'une variante du SARS-CoV-2 identifiée en Angleterre, de la découverte de l'orbite très étrange d'une exoplanète, de prédispositions génétiques aux formes graves du Covid-19, mais également, cette semaine, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref.
Cette semaine, les États-Unis ont autorisé la consommation de porcs génétiquement modifiés, les porcs GALSAFE. La FDA a annoncé que la viande de porc OGM est sans danger pour la population en général. L'agence américaine a aussi autorisé les cochons OGM pour une utilisation thérapeutique, comme pour des médicaments ou pour des xénogreffes. En 2017, le télescope spatial Hubble a observé un étrange vortex sur Neptune, une immense tempête noire de 7400 km dans l'hémisphère nord. Un vortex qui se comporte de façon étrange et inattendue. Alors que les astronomes s'attendaient à le voir disparaître, il a changé de direction. La formation et l'évolution des tempêtes neptuniennes restent encore mystérieuses. Et si le naufrage du Titanic avait été provoqué par une aurore boréale? C'est l'hypothèse de chercheurs américains. Selon les témoignages des sauveteurs et des survivants de la catastrophe, une aurore boréale se serait bien produite dans la nuit du 14 avril 1912. Le phénomène magnétique aurait peut-être perturbé les instruments de navigation et de communication du paquebot. Et enfin, cette semaine, on découvre qu'il existe des accents chez les babouins. C'est ce que révèle l'analyse d'enregistrement de plusieurs grognements de primates issus de deux groupes différents. La structure acoustique, la fréquence, la durée et le ton des grognements sont sans équivoque. Ils varient selon l'appartenance à un groupe.
Dans quelques minutes maintenant, nous retrouverons Ted Chiang pour ce petit cadeau de Noël de fin d'année, auteur du recueil de nouvelles Le Deuxième Expiration chez De Noël. Mais avant ça, on fait un tour par le journal de l'ASF. Et on commence avec un nouveau satellite commercial qui peut surveiller jusque dans notre salle de bain, Natacha.
Oui, l'entreprise californienne Capella Space, dont le PDG est un ancien ingénieur de la NASA, a présenté des images satellitaires assez impressionnantes. Ce nouveau satellite, qui a été lancé au mois d'août, peut scruter les bâtiments, de nuit comme de jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec une image nette, si nette que l'on peut même voir à l'intérieur des pièces d'un immeuble. Alors, sur les nombreux satellites de surveillance en orbite, dans le secteur privé, c'est la résolution la plus haute au monde, avec une résolution de 50 cm sur 50 cm. Alors, contrairement à l'imagerie optique, ce satellite utilise un radar à synthèse d'ouverture, ou SAR. Un peu comme les dauphins ou les chauves-souris qui utilisent l'écholocalisation, le satellite émet un puissant signal radio de 9,65 GHz vers sa cible, puis il capte et interprète le signal lorsqu'il rebondit en orbite. Avec cette fréquence, vous pouvez pénétrer les nuages, le brouillard et la fumée. Selon Capella Space, cette technologie se démocratisera rapidement. L'entreprise veut créer une constellation de satellites SAR et prévoit le lancement de 6 satellites supplémentaires l'année prochaine.
Le Danemark va inaugurer la plus grande ferme verticale d'Europe.
Et si l'agriculture verticale est en plein développement en Asie, elle reste encore peu répandue en Europe. La compagnie Nordic Harvest a donc créé une usine à légumes dans un hangar. 7000 m² sont dédiés à la culture du chou, de la salade et des herbes aromatiques, hors du sol et sans soleil. Dans cette ferme high-tech, 6 rangées d'étagères sur 14 étages devront produire 2,7 tonnes de salade en 2021. La température ambiante, le niveau de l'humidité, la teneur en COD, tout est sous contrôle et permet ainsi 15 récoltes par an, sans pesticides. Ce sont des rendements 200 fois plus élevés que ceux de l'agriculture traditionnelle.
Selon une étude parue dans Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, les robots peuvent nous encourager à prendre des risques.
Le robot m'a forcé à le faire, c'est le titre de cette étude britannique. Les chercheurs ont invité 108 étudiants à faire l'exercice du BART, qui permet d'évaluer les capacités de prise de risque d'un individu. Les participants sont invités à gonfler virtuellement un ballon. Chaque coup de pompe rapporte de l'argent, mais le ballon peut exploser à tout instant et vous faire perdre vos gains. Les étudiants ont passé ce test seuls, puis avec un robot silencieux, puis avec un robot sympathique et encourageant, qui posait des questions comme « Mais pourquoi t'arrêtes-tu maintenant ?» En compagnie du robot gentil, les étudiants ont gagné beaucoup plus que lorsqu'ils étaient avec le robot silencieux ou quand ils étaient tout seuls. Cela signifie donc qu'ils ont pris plus de risques et que les mots d'encouragement, même de robot, font mouche.
Tu ne parles pas du robot père fouettard que l'on peut utiliser en période de fête. Allez, Natacha, deux nouvelles séries de science-fiction à venir.
Oui, Disney a annoncé que la saga Alien allait être développée en série. Une série diffusée sur FX Hulu et réalisée par Noah Hawley, le showrunner de la série Fargo. Alors, ces nouvelles aventures ne se dérouleront plus dans l'espace ou sur une planète lointaine, mais sur Terre, dans un futur proche. Ridley Scott serait en pourparlers pour superviser la série en tant que producteur exécutif. Et autre série attendue, The Stand, adaptée du roman apocalyptique de Stephen King, Le Fléau en français, une mini-série de 9 épisodes pour CBS All Access qui sera diffusée en France à partir du 3 janvier sur la plateforme Starplay. Elle est écrite par Benjamin Cavell, le scénariste de la série Homeland. Et l'histoire raconte une pandémie de super grippe qui décime la quasi-totalité de l'humanité.
Et comme chaque vendredi, on termine par la rubrique de sciences improbables avec l'un de vos sujets favoris, Natacha. On le sait, ça va parler de toutou encore, de chiens cette fois-ci. Mais pas seulement de chiens, en fait de kangourous qui se comportent comme des chiens. C'est une étude parue dans Royal Society Biology Letters.
Oui, le kangourou, que l'on sait être une espèce plutôt farouche, a un point en commun avec le chien. Des chercheurs australiens ont mené une expérience assez connue avec 16 kangourous en captivité. L'expérience, c'est celle où on apprend à un animal à trouver une friandise cachée dans une boîte, puis dans un second temps, à complètement fermer cette boîte pour l'empêcher d'accéder à la friandise, et on observe sa réaction. Le loup, par exemple, pendant cette expérience, va faire tout pour ouvrir la boîte, il n'en démord pas. Le chien et le kangourou vont, eux, se tourner très rapidement vers un humain pour obtenir de l'aide. Les chercheurs disent avoir été très surpris par le regard insistant des marsupiaux.
Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi je viens vous chercher quand je n'arrive pas à ouvrir ma petite friandise de l'après-midi. Et pourtant, je n'ai pas de poche ventrale. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences.